entre ciel et toi. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi la fin du jeu, sont bons nos échanges, au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. Au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux.
Radio FR, Radio Fribourg.
You think you know me, but you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my lips always commit you, switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, yeah.
Tell me, do you want me on top? So let me show you I don't need to back it up. Don't wanna hold you, mold you, scold you, just split you in half in my heart. Trusting you, honor you, please do the same on your part. Be honest, you want this, but I can be heartless, regardless of my conscience. Be honest, you want this, but I can be heartless, regardless of my conscience. Take time, you know, stay around whenever I see bad mind. Before you come my way, make sure you think twice. Into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big five, slow that, catch feels, yeah. If you make it bad, then you can lie.
Majesty, about the way your body twisting, make me lose control in a distinct boy. And it's happy because I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under respect, I'm under your love. I don't know why nobody want me. They say my baby today do me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg, girl, I never lie. You already know I'll
be honest.
Radio Fribourg, on a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Nous partons en France aujourd'hui, enfin, je crois.
Chez nos voisins français.
Ouais, ouais.
Exactement. Et qu'est-ce qui qualifie nos voisins français? Quand tu penses à la France.
Bah oui, c'est.
Parce que nous, la Suisse.
Le béret,
c'est
la baguette, quoi.
Voilà.
Bien sûr.
Exactement.
Nous, c'est la fondue et puis le yodel, quoi.
Le chocolat.
Chocolat, ouais.
Les vaches et tout ça.
Tout
et à
ça,
la France,
ouais.
Effectivement, la petite baguette,
eh
le
oui.
petit béret, etc. Et justement, ils ont sorti, en fait, des timbres. Avec des visuels de baguettes françaises. Mais ils ont poussé le vice jusqu'à l'odeur.
Oula.
Alors, j'ai pas testé, hein, pour
ça
être
très honnête. Ça sent bon, la baguette. Hein.
Oh.
Ça, c'est
mais
terrible.
Le pain chaud, là, quand il sort du four,
ah,
c'est
mais
extraordinaire.
Quand, si tu sors de soirée, à l'heure où les boulangeries s'ouvrent.
Oh, on a vécu ça.
On a vécu ça et que tu sens la petite odeur de la baguette. Ah. Oh là, mon Dieu.
Oh là là.
C'est là que tu l'apprécies le plus.
Puis tu l'as comme ça, hein. Avec un petit bout de fromage.
Avec
c'est toujours
rien
meilleur.
Quand mais tu sors de soirée.
Là, ah ouais, t'as juste envie de ta petite baguette.
C'est juste l'odeur, hein, c'est clair. Mais il y a baguette et baguette. Il n'y a pas tout le monde qui sait.
Non, alors, il faut
reconnaître à la France quand même que les boulangeries françaises et les baguettes, c'est un autre monde.
Ah oui, mais la pâtisserie en général. Là, on leur laisse ça, c'est vrai. C'est pas pour rien que les grands cuisiniers ou boulangers, pâtissiers s'exportent partout dans le monde.
Je sais pas, en Suisse, en tout cas, on a une réputation pas terrible parce que ça m'a fait rire. Un jour, je regarde le abonné entendeur français, belge, pardon. Ça s'appelle On n'est pas des pigeons.
Ok.
C'est une émission de consommation belge.
Comme, abonné entendeur chez nous.
Je vais le faire avec l'accent, hein, comme ça ce sera.
Oui, vas-y,
plus,
toi t'es bon en accent.
Oh non.
En fait,
il parlait de la qualité des boulangeries belges.
Okay.
En disant, bon, alors, la qualité des boulangeries belges laisse à désirer, il y a quand même beaucoup à dire, mais bon, on n'en est pas au niveau de la Suisse quand même. Hein.
Sérieux?
Oula les vaches.
Quoi?
Alors, on est comme ça mauvais.
Il se dit supérieur à nous, Suisse.
Ah, très largement supérieur. Il se moquait de nous en disant, bon, quand même, par rapport à la Suisse, on n'en est pas là. Hein.
Il se trouvait bien meilleur que nous.
Testé.
Alors, faut aller. Bah, ça, je suis allée une fois à Bruxelles, mais ils n'étaient pas contents
de leur boulangeaille, mais ils trouvaient meilleur que la Suisse en tout cas.
Au-dessus. Ouais. D'accord. Bon, on va bien finir le truc, on va laisser ça à la France.
Alors laissons ça aux Français,
La pâtisserie, là, voilà. Si vous avez l'occasion d'acheter ces petits timbres.
Surtout, laissons à la Poste Suisse l'idée de faire une série de timbres avec
un
léchage fondu.
Par exemple,
tu vois, avec des odeurs de fondu.
Un timbre qui sentirait la fondue. Le chocolat, peut-être, non?
Ouais.
Bah, je sais pas ce qui est le plus écœurant.
On est aussi en compétition avec les Belges avec le chocolat.
Avec les Belges.
C'est un problème.
Ouais. Bon, alors on prendra la fondue.
Magnifique accent.
Oui, c'est nouveau, essayer de tester l'accent, on va s'arrêter là.
Oui.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Heidi, Heidi.
Bonsoir Heidi.
Hello.
Bonsoir. Salut.
Ça va?
Moyen.
Ah bon? Oh. Voilà. Non, je suis très en colère aujourd'hui.
Tape un peu sur la table.
Non, mais c'est comme ça, hein, les animateurs, je veux dire, on est comme ça ou on n'est pas comme ça.
C'est vrai, on vit, quoi. On vit, on est réel.
Pour de vrai.
En vrai. Voilà, donc il y a des jours, ça va pas du tout, on est très en colère, on a les boules, on a les nerfs, on a les stress, on a envie de
crier
à tout le monde. Ah!
Cassez-la!
Non, vous allez encore énerver plus de monde.
C'est à peu vrai. Ouais, non, c'est vrai, il faut être tout doux, tout amour, tout choupi. Je vais vous raconter ma vie, parce qu'il s'est passé des trucs cool quand même depuis une ou deux semaines, n'est-ce pas? Des trucs hallucinants, des spectacles spectaculaires, comme on a l'habitude d'entendre sur Radio FR. Non, mais la semaine dernière, je suis allée en France. Et c'est super pour une Française de retourner en France. Enfin, je suis restée en Suisse, mais j'étais en France, en fait, quoi.
Ah bon?
Ouais, c'est sûr. Non, mais je me suis pas loupée. Je suis sûre que j'étais en France. Il y avait un drapeau bleu, blanc, rouge dans le bâtiment où je suis allée. Et la photo de Nicolas Sarkozy, tous les 3 mètres, collée au mur. Donc,
La France.
T'es obligé, c'était la France. Non? Y a pas le culte de la personnalité aussi là-bas? C'est le culte de l'image. Non? Bon. Bon, ça doit être qu'ici. Bref, alors j'étais à l'ambassade, en fait, au consulat, c'est pas un secret.
Ah, Genève.
À Genève.
C'est normal.
Genf. Voilà. Au moins, vous avez la preuve que je suis apte à vivre en Suisse. Et puis, surtout, vous avez la preuve que j'ai rien à cacher.
Oui.
Bah ouais, je suis là.
Bah oui.
Je suis pas recherchée par Interpol. Je suis pas menottée et aucun policier ne m'attend dehors de la radio.
C'est bien.
Enfin, s'il y en a un mimi, je dis pas non.
On peut les noter.
Et là, moi qui ne suis pas allée dans mon pays depuis un long moment, j'ai retrouvé cette bonne vieille Gaule et ses irréductibles râleurs et fouteurs de zone. Ah, je les adore, le bled, quel délice. Enfin, je m'explique. Dans l'ambassade, en fait, il y avait le rez-de-chaussée, c'était rayon carte d'identité. Un guichet, 200 personnes, c'était déjà l'empoignade totale. C'est-à-dire le numéro 17 doit-il passer avant le numéro 16 qui, lui, veut passer avant le numéro 23 qui était arrivé le premier. Alors c'était comme ça un peu
l'ambiance. Ils se sont pris la tête tous.
Tout le monde s'est empoigné, ça s'est battu finalement. C'est la dame du guichet qui a dit, toi tu passes. Puis c'était en fait le numéro 7. Alors j'ai rien compris. Et puis finalement le vigile de 2m12 qui nous a accueillis, m'a indiqué le premier étage pour les passeports en me disant, vous avez de la chance, il n'y a pas grand monde, c'est les vacances. Alors j'arrive au premier étage de l'ambassade, c'était blindé de monde. 3 guichets ouverts, 2h40 d'attente, c'était super. Et toutes sortes de Français qui défilent avec toute leur personnalité, bien sûr. Non, il y a des trucs lunaires, je vous le dis. gentil. Mais essentiellement des râleurs, mais pas de footeurs de zone.
Ah,
hey, les passeports.
Pas au passeport, alors.
C'est sérieux.
Aux cartes d'identité, là, c'était la zone.
Là, on s'en fout, total, c'est la cité, la zone totale. Mais pour les passeports, c'est du sérieux. Hey, les gars, on représente la France à l'étranger. Merde, quoi.
Hey.
Hey, on n'est pas n'importe quoi, on n'est pas n'importe qui, on n'est pas des peluches qu'on lance en l'air et qu'on rattrape pas. Enfin, sauf moi. Mais faut pas me prendre pour exemple. Hein. Moi, je suis game over. Hein. Je représente mal la France en Suisse, je trouve, quoi.
C'est vrai?
Et ouais, bah si j'écoute les rumeurs, oui. Mais bon, alors, en même temps, je sais dire comme fait ami.
C'est déjà pas mal.
Alors,
c'est un bon
c'est
début.
C'est foutu, moi. Avant, je disais, vas-y, sa mère. Puis maintenant, je dis plus du tout ça. Ça sent l'intégration, Tania Rio. Ah, ça, c'est pas bon du tout. C'est pas dans mes habitudes de changer comme ça. Moi, je suis plutôt la même en toutes circonstances. Et ça, ça fait bien tout le monde. C'est tout le monde, voilà.
D'accord, hein, grand vieux.
Ça fait bien yèche tout le monde, comme on dit dans mon pays. Bon, en même temps, c'est pas facile. Moi, j'ai plein de difficultés dans mon pays. C'était la misère quand j'étais jeune, quoi. Faut me pardonner, j'ai pas été aidée. Il m'est arrivé tout. Absolument tout. Tout est de la faute des autres. Je suis innocente, totalement blanche. Et pour vous le prouver, j'ai retrouvé un enregistrement des épreuves d'histoire du bac en France que j'ai passé. Bon, c'est peut-être pas les miennes, vous me reconnaîtrez pas parce que moi j'ai trop honte, c'était pire. Alors, je vous incite et je vous invite à vous régaler maintenant devant ce petit passage merveilleux qui prouve que, ouais, on a de la peine quand on sort de notre pays. Faut pas nous en vouloir si on est comme ça. Vraiment, je suis désolée. Quoique, allez, bon week-end les petits Suisses.
Qui était le général de Gaulle, s'il vous plaît?
Le général de Gaulle, enfin, il était connu puisque il était dans le dictionnaire. C'était un protestant très croyant. Mmh. Il allait souvent à l'église parce que les protestants sont très catholiques. Mmh. Et c'était pour ça qu'il a été enterré à deux églises à Colombey.
Hein? Vous avez eu quel prof?
Prof?
Oui, prof. Oui. Merci.
Alors, donnez-moi les causes de la guerre de Cent Ans.
La guerre de Cent Ans, c'est à cause de Jeanne d'Arc. Parce qu'en fait, elle voyait des apparitions invisibles. Et du coup, on a décidé de la brûler. Et en fait, c'est qu'après l'avoir brûlée que le public s'est rendu compte qu'en fait, elle avait une odeur de sainteté. Et voilà.
Alors, parlez-moi des conditions de la Révolution française.
Alors, la Révolution française, c'est les sans-culottes. Ils n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter donc des slips. Et donc, en plus, d'un côté, il y avait donc les riches. Ils pensaient que s'il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait plus aucune raison d'être riche. Donc, ils ne voulaient pas qu'ils perdent leurs privilèges. C'est pour ça.
D'accord. Bon, on commence comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'une racine carrée?
Une racine carrée. Une racine carrée, c'est une plante avec quatre angles égaux.
Ouh là 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 là. Merci beaucoup.
Alors, si en ville, le problème de sécurité est dû à l'insécurité, il ne faut pas oublier qu'en campagne, l'alcoolisme est dû à la boisson, même si l'alcool permet de rendre l'eau potable.
Merci, je crois que je vais faire une petite pause.
Alors, parlez-moi de Néron.
Alors, Néron était un grec très méchant, très féroce, qui organisait des combats de radiateurs. Et... C'est un personnage très important.
Mais évidemment.
Pouvez-vous me dire qui a inventé le zéro?
Ah bah non, ça par contre, personne ne l'a jamais su. Mais bon, il est très utile en fait quand il se trouve derrière les numéros. Mmh. Devant, il ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, ce qui est très utile, c'est que c'est le seul numéro qui permet de compter jusqu'à 1.
Ah ouais?
Donc voilà, ouais. C'est le seul numéro.
Et sinon, on aurait commencé à 2, quoi.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Allez, c'est l'heure de notre arrêt télé. On a regardé C'est à vous sur France 5 en direct du Festival de Cannes. Et quand on est comme ça en extérieur, eh bien on prend tous les risques. Hein. C'est ce qui est arrivé à Anne-Elisabeth Lemoine.
Waouh, vous avez failli vous prendre un oiseau dans la gueule. C'était quand même...
Moi, là, c'est le deuxième. Ils veulent ma peau.
Ah ouais, il n'est pas passé loin.
Tout à l'heure, il y a eu un vol en piqué, là.
Il déteste le rose.
Ah, il est vraiment pas
passé loin. Ah, c'est le rose, il me...
Ah ouais.
Ah ouais, d'accord. Ah ça oui, les énerve.
J'ai eu peur, mais bon.
Moi et Roselyne Bachelot, on est deux à énerver les oiseaux.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
22.
Radio FR.
Jamais sans.
David Vida ce matin. Salut mon David.
Hey, salut Mike, salut tout le monde. Hier, c'était la journée internationale de la non-violence. Ouais. La citation d'hier nous est offerte par V.Poutine. Qui a dit « La tendresse est plus forte que la dureté, l'eau est plus forte que le rocher et l'amour est plus fort que la violence. » Merci Monsieur Poutine, c'est vraiment très très beau. Et d'ailleurs hier, j'ai fait le Mora Fribourg.
Non.
Ouais.
Non.
Mais je ne comprends pas que cette course elle tombe le même jour que la journée internationale de la non-violence parce que j'ai très très mal. Elle m'a cassé la gueule cette course, vraiment.
Mon pauvre.
Et le Mora Fribourg, c'est quoi? C'est une course qui fête l'exploit d'un messager qui a couru de Mora jusqu'à Fribourg pour annoncer la défaite du duc de Bourgogne. On n'a jamais rien gagné. Et quand on gagne, il faut que ce soit à Mora. Donc ça aurait été plus simple qu'on fasse la guerre à Fribourg et qu'il court l'annoncer à Mora, on serait fait beaucoup moins chier 540 ans plus tard. Hein.
La descente de la sauna au lieu de la montée.
C'est hyper violent. En plus, j'étais très très mal préparé. J'ai couru pour la première fois 8 km il y a 2 mois. Et bon, j'ai couru quand même 2 fois après le bus et assez vite. Hein, je ne l'ai pas loupé. Donc j'étais chaud. Mais vous avez compris, je ne l'ai pas fait parce que je suis un grand sportif et encore moins parce que je suis un gars qui se fixe des objectifs. Je vous rappelle que j'ai repris un apprentissage à 34 ans et que je fais des chroniques à Radio Fribourg.
Ouais, c'est dire.
J'ai à peu près autant d'ambition que le responsable en communication que David Papo. Non, si j'ai couru, c'était pour une association qui s'appelle Le Phare, et plus particulièrement pour Florence. C'est une personne, enfin, c'est même une famille qui m'a beaucoup touché. Pour la petite histoire, Florence était victime d'un AVC à l'âge de 36 ans, donc mon âge. On lui a diagnostiqué le locked-in syndrome ou syndrome de l'enfermement. En gros, t'as ta conscience et tes fonctions cognitives qui vont parfaitement bien. Par contre, ton corps ne répond plus du tout. T'es vraiment prisonnier de ton corps et je trouve ça assez terrible. C'est un petit peu comme... t'es enfermé dans une pièce avec un stylo, un contrat de vente immobilier et Damien Pilaire. Et tu peux pas t'échapper. Tu peux pas t'échapper.
Non.
En fait, le locked-in syndrome, c'est l'inverse de Claude Hugo. Lui, on voit bien que le corps bouge plus ou moins normalement, mais le reste a de la peine à suivre. Hein. C'est vraiment.
On reconnaît tes meilleurs amis, là.
Oui, vraiment. Il faut une petite dédicace. Il faut savoir que ce syndrome, il est très, très peu connu, même par le personnel médical. Donc, le Phare, c'est la seule association en Suisse qui soutient les personnes qui en souffrent. Du coup, je me suis dit que c'était important d'essayer de mettre un petit peu cette association en avant, tout en me dépassant. Alors, bon, oui, je me suis dépassé. Je me suis surtout fait dépasser. Souvent, par plein de gens, vraiment tout le long. Je dois avouer qu'avant ça, je ne voyais pas l'intérêt de courir plus que 10 minutes sans que l'ennui me tue. Alors maintenant, bah, je ne vois toujours pas l'intérêt. Hein. Mais sauf que ce n'est plus l'ennui qui me tue, c'est juste marcher. Blague à part, c'était difficile les derniers kilomètres, j'en pouvais plus. Mais l'équipe que Florence elle avait réunie, elle était incroyable. Il y avait des physios, des ergos, des amis. On s'est toutes et tous encouragés, on a pris du plaisir, on s'est motivés et surtout, on savait pourquoi on était là. On avait le même but, le même objectif, atteindre la ligne d'arrivée pour pouvoir enfin avoir le t-shirt gratuit offert par l'inscription. Ah. Parce que, il est bon ce rebours, comme ça.
Ah ouais. Ah ouais, faut regarder les séquences filmées qu'on va certainement vous mettre en ligne.
Hein. Magnifique.
Ah ouais, superbe.
En bref, on a commencé à courir pour Florence et on a terminé en courant en famille. Franchement, un max de bisous à toute la team du Phare. Vous êtes des machines de guerre. Bref, courir c'est bien, mais à plusieurs c'est mieux. En fait, courir pour une bonne raison c'est vraiment bien. Courir pour Florence et le Phare c'est le feu. Bonne journée tout le monde et prenez soin de vos proches.
Il a de l'endurance et il a du cœur. Merci David Vidard. Je peux juste savoir le temps que tu as fait quand même.
Alors on a fait 2h12, mais en poussant une Joëlette.
Génial.
Donc ouais, on est très content du temps, mais comme je dis, c'était des machines de guerre. Hein. Ils ont tout donné.
Bravo David, on espère te retrouver, te réentendre tout bientôt sur Radio Fribourg. Hein.
Radio FR.
Jamais sans.
Rio demain matin, un autre sportif.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Le Fribourg,
c'est une autre histoire.
On ne peut le classer ni chez les jeunes ni chez les vieux, tellement il est intemporel. L'historien de Radio Fribourg, on est tellement heureux de vous retrouver, mon bon Alain-Jacques Tornard. Soyez le bienvenu.
Bienvenue.
Bonne et heureuse nouvelle année.
C'est ce que j'allais dire, bonne et heureuse année. C'est à tous nos auditeurs et auditrices. D'ailleurs, je fais un petit salut particulier au responsable de la pédale bulloise, parce qu'il nous écoute. Et il m'a proposé de faire quelque chose autour de les 100 ans temps de la pédale bulloise.
C'est vrai que vous avez fait un peu de vélo l'année dernière,
oui, on s'en souvient. Oui, tout à fait. J'adore le vélo. Alors, et comme il nous écoute, il a trouvé que c'était tellement passionnant, notre émission. Il se dit, mais ah, ça serait bien que pour notre 100e anniversaire, on ait un conférencier comme ça. Alors, ça m'a fait plaisir. Je l'ai reçu hier en fin d'après-midi. Voilà, je lui fais un petit coucou.
On sent en tout cas les bonnes résolutions d'Alain Jacques Tornard. Déjà, l'année dernière, il nous proposait un superbe parcours historique didactique, non pas en voiture, mais à vélo. Alors, parmi vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2022, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Veganuary. Il y a possibilité d'observer pendant tout le mois de janvier un régime sans produits à base animale, c'est-à-dire en régime végétalien, autrement dit. Est-ce que ça vous tente, ça ?
Bon, moi, vous savez, je n'aime pas les produits avec du lait. Donc, déjà, c'est
mal parti, là.
Et puis bon, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Déjà, l'utilisation toujours de l'anglais, là, pourquoi pas utiliser un mot français pour dire ça, hein, Veganuary, là.
Vous le prononcez très bien.
Non, mais moi, j'aime beaucoup les légumes. D'ailleurs, il y a 40 ans, quand je faisais de la bolognaise, je mélangeais avec du soja, des graines de soja, parce que je trouvais ça très bon. Et quand je fais une sauce bolognaise, j'adore mettre beaucoup de carottes, des trucs comme ça. Dans la...
Alors, donc, mais c'est qu'il nous donnerait faim, le bougre.
La seule chose qui me gêne dans cette vague, ouais, c'est le fait qu'on veuille absolument imiter la viande. Comme une frustration, là, on en parlait hors antenne d'ailleurs. Pourquoi imiter? Alors, bien sûr, on est en transition. Hein. C'est un mot qu'on aime beaucoup utiliser en ce moment, hein, vous avez remarqué. On est en transition pour beaucoup de choses. Et là, en l'occurrence, on imite absolument la viande pour tout. Je me dis qu'on doit mettre quand même une sacrée cochonnerie dedans pour que ça soit imité comme ça bien. C'est cet aspect-là qui me gêne. Moi, ça me... Et puis quand je vois le nombre de fois où c'est à demi-prix dans nos grandes enseignes...
Ça veut dire qu'on a de la peine à écouler tout ça, alors?
Oui, peut-être, mais c'est une bonne chose qu'on aille vers les légumes. Les légumes, moi je suis allé au Japon, les légumes sont très très présents, qu'on multiplie cela, c'est très très bien. Mais qu'on imite sans arrêt pour faire semblant de manger de la viande, je veux dire, c'est en plus de la frustration, c'est très... je sais pas si c'est vraiment très sain. Voilà, quand on parle de nourriture, on aime bien quand ça soit sain. Autant manger des légumes. Moi, le mot vegan, presque, quand j'entends le mot vegan, j'ai presque envie de me crisper, quoi. Alors que c'est un très beau mot en soi. Quand ça devient idéologique, hein, on le verra tout à l'heure, d'ailleurs, quand on parlera d'un certain Macron, quand l'idéologie s'en mêle, c'est toujours un petit peu gênant.
C'est vrai qu'on va parler d'Emmanuel Macron et de sa déclaration choc, hein, lâchée dans les colonnes du Parisien la semaine dernière. Les non-vaccinés, j'ai envie de les emmerder. On va continuer à le faire jusqu'au bout. On analysera cette phrase de l'actuel président de la République. On verra si c'est vraiment digne d'un chef d'État de sortir des choses comme ça. On évoquera aussi les 400 ans d'un certain Jean-Baptiste Poquelin. Hein, c'est le vrai nom de Molière. Et pour bien commencer cette émission, dans quelques instants, hein, la Grèce qui proclamait son indépendance. C'était il y a 200 ans, quasiment jour pour jour. Ce sera l'occasion pour vous également, Alain Jacques Tornard, de nous parler d'une très belle exposition que vous avez vue à Genève, je crois, pendant
tout
les fêtes.
Tout à fait, hein, au musée d'art et d'histoire. Et en plus, c'est gratuit, je le précise.
En plus, c'est gratuit.
Les musées genevois sont gratuits. Les grands musées genevois publics, hein, pas les privés. Et je trouve qu'on devrait un peu plus s'intéresser à cela. Parce que
petit appel du pied à nos nombreux directeurs et autres conservateurs de musées qui écoutent régulièrement cette émission. On vous retrouve, Alain Jacques Tornard, juste après les Queen et I Want to Be Fribourg.
C'est une autre histoire.
Le 12 janvier 1822, la Grèce proclamait son indépendance. Elle appelait les nations chrétiennes à son secours. Et c'est le début d'une longue guerre, hein, la guerre d'indépendance grecque contre les Turcs, un conflit qui durera officiellement jusqu'en 1929 et qui... 1829, merci de rectifier, vous suivez mieux que moi. Et qui menaça la Sainte Alliance née du congrès de Vienne en 1815. Ce qui vous a donné envie, véritablement, de parler de l'anniversaire de la Grèce, c'est cette exposition, hein, que vous avez vue à Genève pendant les fêtes.
Hein. Oui, au musée d'art et d'histoire, elle se déroule jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30. Elle est d'ailleurs accompagnée d'un très beau catalogue et surtout, elle nous raconte l'histoire des liens entre la Suisse et la Grèce. Moi-même, j'avais été contacté il y a 2 ans pour participer à cela. Puis bon, je suis pas du tout spécialiste de l'histoire de la Grèce, mais c'est absolument passionnant. Le lien entre... On est totalement méconnu, le lien entre la Suisse, les Suisses et la Grèce. et les Suisses ont joué un rôle important dans le processus d'indépendance de la Grèce, comme nous allons le voir. D'ailleurs, à un moment donné, il y a eu des Suisses qui ont été, qui ont joué un rôle dans les îles grecques, les îles ioniennes. Il y a le fameux, le futur général Dufour, vous savez, celui du Sunderland.
Bien sûr.
Eh ben oui, mais il était d'abord officier napoléonien à Corfou. Et il y a eu aussi un gouverneur neuchâtelois à Zante. Alors, bon,
revenons à notre 12 janvier 1822.
Exactement. Alors, en fait, c'est un archevêque orthodoxe, Germanos de Patras, qui en mars de 1821, eh bien, réunit un congrès à Épidaure, vous voyez, dans le Péloponnèse, un lieu, là encore, ces grands lieux mythiques de la Grèce. Et après deux semaines de délibération, eh bien, le 12 janvier 1822, il proclame unilatéralement leur indépendance et appelle les nations chrétiennes à leur secours. Et c'est en effet le début d'une longue guerre d'indépendance. Et vous allez me dire, ces nations chrétiennes, bien entendu, ont répondu comme un seul homme à cet appel.
Ça aurait été trop simple.
Ouais, mais parce qu'on les avait abandonnés depuis tellement longtemps, les Grecs, à leur propre sort. D'ailleurs, c'est amusant parce que je parle au passé, mais on pourrait très bien parler exactement de la même manière au présent. Alors, je ne veux pas remonter au déluge, mais la chute de l'Empire byzantin, la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, s'était déroulée, d'ailleurs on a mis que c'était la fin du Moyen-Âge d'ailleurs, mais ça s'est déroulé quasiment dans l'indifférence en Europe. On a vu, comme on dit vulgairement, puisqu'on va parler de Macron tout à l'heure, on les a laissé crever la gueule ouverte, quoi, carrément à ce moment-là, et donc ils sont tombés sous la coupe du sultan, et Constantinople est devenue Istanbul, comme on le sait. Et en fait, il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'on commence vraiment à s'intéresser, parce que c'est devenu un lieu un enjeu politique, géopolitique entre les Anglais et les Français. Je parlais tout à l'instant du général Dufour. Pourquoi ? Parce que ces îles, il fallait les contrôler. D'ailleurs, c'est pour ça que les Italiens eux-mêmes vont mettre la main sur d'autres îles au sud de la Turquie, les îles grecques. Et tout cela fait que, en fait, voilà, pendant des siècles, ils ont été totalement dominés et ça est devenu petit à petit insupportable. Et cette révolte va être noyée dans un premier temps dans le sang. Tout le monde a en mémoire le massacre de Kyov
des grandes exactions de cette guerre.
Je me souviens parce que j'avais été très impressionné. Je pense que vous aussi d'ailleurs quand on nous enseignait l'histoire grecque et de voir comment cette île de Kyov qui a eu un massacre, ça a été peint par deux la croix. Le tableau avait été présenté au salon en 1824. En 1829, Victor Hugo écrit dans Les Orientales un très beau poème où il dit qu'il faut des balles pour les Grecs. Et alors donc, ça a créé un mouvement qui est aussi parti quelque part de la Suisse. Il y a eu, c'est bien raconté dans l'exposition, la famille Hénard, qui est une grande famille genevoise qui va vouloir mettre en place un État pour la Grèce. Il y aura Lord Byron, bien entendu, qui avait passablement passé du temps au bord du lac Léman, et qui, aura été un des grands combattants pour l'indépendance grecque. D'ailleurs, il mourra à Missolonghi en 1822, et donc ça va être l'objet, tout à coup, d'une prise de conscience. La Sainte Alliance ne voulait pas en entendre parler, d'abord, vous savez, il y a cette création en 1815, d'une sorte de consortium européen.
Voilà. On s'est dit, toute velléité de révolution doit être tuée dans l'œuf.
C'était vu comme une révolution, alors que les Grecs n'étaient pas des révolutionnaires. Ils voulaient simplement, c'était des nationalistes, ils voulaient créer leur propre nation. Et finalement, c'est presque sur un malentendu qu'en 1827, il y aura cette fameuse grande bataille navale de Navarin, où la flotte turque, en fait, il y a eu un malentendu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans les guerres. Des fois, il peut y avoir un malentendu qui fait que tout à coup il y a un combat qui se déroule. Donc Navarin, 1827, les Turcs sont humiliés. Alors bien sûr qu'il va y avoir l'indépendance grecque en 1829, mais ça se résumait au Péloponnèse, et il faudra attendre, quand vous faisiez le lapsus tout à l'heure pour 1929, vous aviez raison quelque part. Pourquoi ? Parce qu'il faudra attendre les années jusque dans les années 1920 pour que la question grecque soit résolue. Il y aura des guerres tout au long, il y en a encore au début du XXe siècle, il y aura le traité de Sèvres en en 1920, qui donnera d'ailleurs même une partie de la Thrace occidentale à la Grèce, ainsi que le maintien de Smyrne, c'est-à-dire sous le continent turc, à la Grèce. Mais les Grecs, avec leur nationalisme, fera que ils vont repousser les Turcs les Grecs. Il y aura le traité de Lausanne en 1924. Voilà. Donc vous voyez, on n'est pas loin de 1929. Donc un siècle.
Finalement, j'avais raison. Écoute.
Voilà, exactement. Bah, tu avais raison.
J'y mets un peu de mauvaise foi, je le reconnais.
Le traité de Lausanne est un peu absurde puisque il donne toutes les îles quasiment à la Grèce, mais le continent, il y a plus que la Turquie. Et donc, à l'heure actuelle encore, quand je dis qu'on a laissé tomber les Grecs, à l'heure actuelle encore, il y a un problème. On n'a toujours jamais résolu tout à fait les frontières de la Grèce.
Êtes-vous vacciné, très cher Alain Jacques?
Oui, d'ailleurs, je vais faire ce qu'on appelle le booster dans quelques jours.
Donc vous ne faites pas partie des personnes que Emmanuel Macron a envie d'emmerder jusqu'au bout. Hein,
non.
Pour reprendre ses propres expressions quand vous allez en France. Hein.
Non, mais je fais partie de ceux qui estiment qu'ils n'ont pas été, qu'ils l'ont pas fait tout à fait volontairement, disons. Hein.
Et on avait dû vous pousser.
Oui. J'avais dit d'ailleurs
vous ont
ici même, au même moment, l'année dernière, quand vous me posiez la question pour le vaccin, j'avais dit, je ne suis pas un adepte de la roulette russe.
En 36.
C'est une autre histoire.
Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Waouh, voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dans un entretien mis en ligne par Le Parisien. C'était mardi dernier. Ces propos du président de la République française sont-ils dignes d'un chef d'État sur le fond, sur la forme surtout? L'occasion peut-être, Alain-Jacques Tournard, de se pencher sur l'échiquier politique français alors que nous sommes à 3 mois, quasiment jour pour jour, de l'élection présidentielle.
Oui, c'est vous m'avez demandé là de faire quelque chose d'affligeant, parce que c'est affligeant ce que nous offre comme scène la vie politique française, quoi. Actuellement, on avait dit de François Hollande, un président ne dit pas ça. Vous vous souvenez? Il y a même un bouquin qui s'intitulait un peu comme ça. Il y a un mois et demi, le même Emmanuel Macron, devant notre cher Darius Rochebain, avait dit le respect fait partie de la vie politique.
Ouais. Il avait repris, on s'en souvient, un petit jeune lors d'une de ses sorties en disant tu m'appelles pas Manu, tu m'appelles Monsieur le Président.
Voilà, exactement. Donc on doit respecter les autres quand on veut être respecté. Mais bon, moi ce qui m'a gêné, il y a plusieurs choses qui m'ont beaucoup gêné. La première chose, c'est que les politiques proches de Macron et les journalistes complaisants ont rappelé que d'autres présidents avaient fait des remarques similaires presque. Alors on cite par exemple Georges Pompidou en 1966, qui avait dit mais arrêtez donc d'emmerder les Français, il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays, on en crève, laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux, foutez-leur la paix, il faut libérer ce pays. Sauf que il n'était pas président de la République, mais Premier ministre. Mm-hmm. Que ses propos avaient été tenus en 1966 auprès de son collaborateur, qui n'était autre d'ailleurs que Jacques Chirac à l'époque, qui était jeune secrétaire. Il allait devenir un ministre lui aussi, mais qui ne jouait pas un rôle. Et ce sont des propos qui n'avaient pas été rapportés à l'époque, puisqu'ils étaient d'ordre privé. Et vous voyez, c'est ça qui m'embête beaucoup à l'heure actuelle, c'est qu'on contextualise jamais, on compare ce qui ne peut pas être comparé. Alors vous allez me dire, oh, il y a Sarkozy. Ah oui, Sarkozy qui avait dit en 2005...
Le fameux « casse-toi, pauvre con ».
Voilà, exactement.
Bon, c'était pas dans un entretien officiel. Hein.
Non, bien entendu, c'était dans le feu de l'action, mais il avait aussi dit, vous savez, l'histoire du Karcher.
Ah oui, le nettoyage des banlieues au Karcher.
Voilà, sauf que il était, là aussi c'était dans le feu de l'action, et surtout c'était, il était ministre de l'Intérieur. Mmh, il n'était pas président de la République. Vous voyez, il y a des strates de comportement, j'allais dire. Hein. Il y a des choses que vous dites à titre privé, ça nous arrive aussi, hors antenne, de dire des bêtises, comme ça.
Pas vous, Alain Jacques, jamais.
Chers auditeurs,
ne tuez pas le mythe.
Mais disons que il y a ce qu'on, il faut savoir se tenir en public. Et là, veut dire, c'était lors d'une discussion avec dans le cas de Macron, avec des lecteurs d'un journal parisien. Et donc, c'était vraiment des propos qui avaient été totalement maîtrisés. C'était pas dans le feu de l'action. Mais alors, il y a quelque chose qui est assez amusant dans cette histoire, c'est ce que ça cache, Mike. Pourquoi ? Parce que il a aussi dit que c'était des irresponsables ceux qui étaient contre le vaccin et qui n'étaient pas dignes d'être des citoyens. Et ça, c'est étonnant parce que tout le monde s'est rué sur la phrase avec ce mot vulgaire, mais personne n'a, peu ont relevé le fait qu'il ait dit ça.
C'est vrai.
Et ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire dénier à celui qui exerce librement sa capacité de citoyen en disant qu'il n'est pas d'accord. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec lui, mais on ne peut pas lui dénier le titre de citoyen.
Ouais, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire rendant la vaccination obligatoire.
Exactement.
Purement et simplement. Hein.
Et en plus, certains quand même observateurs avisés ont pu remarquer que quand il y a eu les attentats islamistes, on n'avait pas tenu ce genre de... En tout cas, un président de la République n'avait pas tenu ce genre de propos en disant qu'il fallait retirer son droit de citoyenneté aux musulmans exaltés, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement gênant. Et là, il a commis une grave erreur. Ce que je pense, c'est qu'il veut faire aussi... c'est un leurre. Vous savez, c'est quelqu'un de très intelligent.
Autrement, il ne serait pas au poste qu'il occupe actuellement.
Oui. Moi, j'ai du mal à me situer par rapport à lui. Hein. Encore maintenant,
je me souviens que quand il menait campagne avant son élection, vous n'étiez absolument pas persuadé par la personnalité d'Emmanuel Macron.
Non,
même lors des premiers jours de son mandat.
Et encore maintenant, j'ai du mal à le saisir. Donc, il m'étonne un petit peu. Mais je pense qu'il a utilisé là ce qu'on appelle un leurre. Vous savez, je vous dis souvent qu'en histoire, on utilise des leurres, on donne des os à ronger aux gens avec deux objectifs. Un, premièrement, c'est de solidifier le socle électoral qui est le sien. Il peut compter sur 25% de la population qui est farouchement pour le vaccin. Et les 25% contre vont jamais voter pour lui. Mais les 25% pour, oui. Et donc, il faut solidifier ce socle parce que son but est d'arriver en tête au premier tour pour pouvoir le gagner au second. La hantise qu'ont les derniers présidents de la République, je vous rappelle quand même que Sarkozy a été battu, que Hollande n'a même pas osé se présenter et que lui, il aimerait absolument pas terminer deuxième au premier tour. Mmh. Même troisième éventuellement, d'ailleurs.
Alors, vu qu'on parle justement de ce premier tour, quel est le principal rival ? Qui sont les principaux rivaux d'Emmanuel Macron pour
c'est
ce premier tour.
C'est encore très difficile à dire parce que vous vous souvenez qu'on l'avait fait.
Médiatisé, c'est bien sûr Éric Zemmour.
Mais Éric Zemmour n'est vraiment pas sûr d'avoir le nombre de grands électeurs puisque c'est rendu public, il en faut 500. Il est loin du compte. Je pense que Macron a tout intérêt à qu'il soit présent pour diviser le camp de la droite dure et pour se retrouver avec Valérie Pécresse au deuxième tour.
Qui a ressorti le Kärcher d'ailleurs, elle.
Elle aussi, mais elle a du mal à trouver son segment parce qu'il est très habile. Alors je pense que ce qu'il veut faire aussi oublier là où il y a l'occultation, c'est que le carnet vaccinal, le pass vaccinal comme on l'appelle, qui va être mis en place en France, rappelle des mauvais souvenirs aux Français. C'était le livret ouvrier du 19e siècle par exemple où on surveillait les gens, où ils devaient présenter quand ils allaient travailler justement une sorte de passe, justement un livret, on appelait ça un livret. D'ailleurs, si on voulait utiliser un mot français, il devrait utiliser le mot livret, mais il l'utilise pas parce que ça renverrait justement à ce livret ouvrier qui était de mémoire, quelque chose d'extrêmement invasif, quoi. Et donc, je crois qu'il veut faire oublier ça. Pour l'élection présidentielle de 2022, on a du mal à... tout le monde pense qu'il va être réélu de manière assez facile. Je suis pas aussi sûr que de cela, parce qu'il peut y avoir une coalition de tous les gens contre. Je ne parle même pas de la gauche qui est bien sûr totalement éliminée. Ça aussi, d'ailleurs, pour la politique française, c'est très extrêmement négatif. Le fait qu'il n'y ait plus de gauche, alors qu'elle est toujours très présente sur le plan médiatique, sur le plan sociétal, toutes ces idées.
Mais pas sur le plan politique, bizarrement.
C'est très grave, parce que ne plus être représenté au pouvoir alors qu'on exerce une telle influence, on parlait du politiquement correct, du wokisme, etc., etc., tout ça est symbolisé par la gauche, à tort ou à raison d'ailleurs, comment on appelle ça déjà, pas l'islamophobie,
l'islamo-gauchisme.
L'islamo-gauchisme, ça existe bel et bien, mais moins ils sont nombreux, plus ils se font entendre, et il y a un déséquilibre, et dans la politique française, il y a un extrême déséquilibre, et ça c'est extrêmement dangereux.
On est à 3 mois du premier tour de la présidentielle, nul doute qu'on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Alain Jacques. acteur nar. Dans quelques instants, Monsieur Molière, ou Jean-Baptiste Poquelin de son vrai nom, c'est comme vous le voulez. Le 15 janvier, ce génial auteur de pièces de théâtre aura 400 ans, enfin ça fera 400 ans qu'il est né. Est-ce que c'est vraiment lui qui écrivait toutes ces pièces, hein? On entend souvent dire que c'était peut-être quelqu'un d'autre du Fribourg.
C'est une autre histoire.
Le 15 janvier prochain, nous allons commémorer les 400 ans de la naissance de Molière. Alors, qui était véritablement Jean-Baptiste Poquelin, auteur d'une trentaine de comédies théâtrales, toujours enseigné de nos jours, hein? Moi, c'est mes bons souvenirs de littérature, étudier les pièces de Molière, et surtout la question que vous aviez vraiment envie d'aborder à Alain-Jacques Tournard. Ça fait partie des mystères de l'histoire sur lesquels vous aimez bien vous pencher. Est-ce que Molière a vraiment écrit toutes ces pièces?
Ouais, c'est une grande question qu'on s'est posée au fil du temps, hein, parce qu'on n'a pas de manuscrits de Molière, un peu comme Shakespeare. D'ailleurs, vous avez remarqué que pour les Anglais, on dit la langue de Shakespeare. En France, on dit la langue de Molière.
C'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre.
Voilà, hein, exactement. Et on a raison d'ailleurs, parce que c'est un grand moment au niveau de la langue. Mais dans les deux cas, pour des personnages non pas qui n'ont pas existé, mais dont on n'est pas très sûr de l'œuvre quelque part. Hein. Alors, il a créé des pièces qui ont fait entendre les mots des plus grands comme des plus humbles. C'est ça qui est intéressant. Mmh. Hein. C'est pas intéressé à la mythologie, Racine, vous voyez, avec des vers pour la bonne société. Il a créé une langue pour tous les habitants. Et c'est ça du royaume. Et c'est ça qui est intéressant au moment où justement se forme parallèlement l'Académie française, où on bâtit quelque part une langue commune à tous les Français. Il arrive donc particulièrement au bon moment. Mais il suscite encore la polémique. Mais de là à se poser la question si Molière a écrit ses propres œuvres, on a pensé que ça pouvait être Corneille, tout simplement. Mmh, mmh. Reprenons l'affaire à son commencement. C'est une question de lutte des classes, j'allais dire. Molière, Poquelin, c'est un fils de tapissier. Alors, forcément, dans l'imaginaire collectif français, très aristocratique, est-ce qu'un fils de tapissier peut être en aptitude d'écrire des pièces, d'autant plus que c'était un saltimbanque. Il a mené aussi une vie de patachon, on l'a même accusé d'avoir épousé sa propre fille, c'est assez qu'il avait eu avec une autre femme. Le personnage est un peu santé le souffre. Et Pierre Louis, qui est un poète du début du XXe siècle, avait fait une étude. Il est convaincu que l'auteur d'Amphitryon, de Misanthrope, toutes les pièces dites sérieuses de Molière, c'est Pierre Corneille. Parce que lui-même, Corneille, avait fait des pièces comiques. L'illusion comique, par exemple, que j'aime beaucoup, d'ailleurs, Le Menteur.
Pas les pièces les plus connues. Hein.
Non. Mais justement, parce que lui, finalement, il passait pour un auteur très sérieux, puis ça le gênait d'écrire des pièces légères. Donc peut-être que, celui qui était quand même membre de cette Académie française naissante ne voulait pas vulgariser, de devenir quelqu'un...
Perdre sa crédibilité.
Voilà. Alors, on dit qu'il y a un accord secret qui aurait existé entre les hommes, à l'un le masque, à l'autre la plume. Nicolas Boileau, d'ailleurs, avait soupçonné la tromperie lorsqu'il avait déclaré « Dans ce sac ridicule où s'enveloppe Scapin, je ne reconnais plus l'auteur du Misanthrope. » Parce que, voilà. Et Franck Ferrand, que vous aimez beaucoup, je crois.
Voilà, historien presque aussi bon vulgarisateur que vous, mon bon Alain-Jacques Tournarin, qui a sévi pendant des années sur Orma, il doit être sur Radio Classique.
Voilà. Et en 2008, il avait dit qu'il y avait une rencontre entre Molière et Corneille en 1658 à Rouen, et qui, en fait, c'est là qu'il y aurait eu cet accord entre les deux hommes. Il est curieux, selon lui, que Molière n'ait laissé aucun manuscrit. Alors, l'austère Corneille, se cachait-il derrière le flamboyant Molière, se demande-t-il. Personnellement, je ne le penche pas. On a fait des rapprochements linguistique, hein, en disant voilà, c'est très proche, si on veut, la répétition de certains mots faisait que. Mais à l'époque, c'était quand même. Si vous faites la même expérience entre Baudelaire et Rimbaud, vous pourriez penser que l'auteur des Fleurs du Mal est aussi celui des Cahiers de Douai. Je cite ça parce que ça a été écrit à Douai, ma ville natale.
Ah, bah oui, Douai, forcément, c'est votre région natale. Hein.
Et puis, bon, en fait, faut même pas oublier qu'à l'époque, tout le monde se piquait des idées. Vous vous souvenez de la pièce Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, vers la fin, avant qu'il ne meure, on annonce à Cyrano que, justement, Molière lui a volé toute une scène. Que diable allait-il faire dans cette galère ? Mais il ne faut pas oublier que jusqu'à Beaumarchais, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait pas le droit d'auteur. Vous pouviez piquer tout ce que vous vouliez à tout le monde. Et donc, je veux dire qu'on retrouve des formules, tout ça. La Fontaine s'est inspirée des auteurs grecs. On a même pu croire, à un moment donné, que les auteurs grecs, c'était des auteurs du Moyen-Âge, des moines qui avaient écrit des textes, et puis c'était des faux. Et vous pouvez multiplier à l'infini le nombre de soi-disant faux qui sont des vrais. Et on ne s'y retrouve plus, encore plus qu'avec les tableaux, comme on peut le voir en ce moment. Et donc, il est de bon ton de déboulonner la statue, comme régulièrement on s'en prend à William Shakespeare en disant que c'était peut-être Francis Bacon, voire peut-être un souverain britannique qui avait écrit certaines de ses pièces. Oh. C'est le drame des primo-accédants, en fait. Hein. C'est-à-dire des gens qui sont partis de rien, et ces gens-là sont toujours soupçonnés de ne pas être légitime dans ce qu'ils font.
Alors, plutôt que de rendre à César ce qui est à César, rendons à Molière ce qui est à Molière.
Exactement.
Hein, une pièce que vous conseilleriez à nos auditeurs de lire ou de relire particulièrement. Moi, mon coup de cœur, c'est Le Bourgeois Gentilhomme.
Ouais, moi, j'aime beaucoup Le Valade Imaginaire aussi.
D'accord.
Voilà. Ou bien Le Petit Chat est mort.
Ah bon?
Oui, non, c'était dans une des pièces. C'est là qu'on avait découvert Isabelle Adjani.
Ah, vous vous souvenez? D'accord.
Elle disait ça, et c'était tout un...
En plus d'être littéraire, c'est un fin esthète, hein, notre ami Alain Jacques Tornard. Un plaisir de vous avoir retrouvé pour la première fois de cette année 2022. Très rapidement, on a déjà des pistes, hein, pour la semaine prochaine, le contenu de cette émission. Hein.
Oui, parce que...
Vous avez suivi l'affaire Novak Djokovic,
voilà,
par
exemple.
Voilà,
exactement, et ça dit beaucoup sur la situation internationale. Mmh. On parlait de la Grèce, d'ailleurs, on est tout à fait dans cette ligne de fracture, voilà, de l'Europe.
Ah bah ça nous fait un sujet déjà pour la semaine prochaine.
Et qui prolonge celui qu'on nous avons dit aujourd'hui.
Parfait. Bonne journée. Portez-vous bien, là, Jacques
Tornard. Bonne journée à tous et encore bonne année. Hein. Profitez-en bien. Soyez optimistes.
Cadet Bostani, Wild in Secret, c'est tout de suite sur
Radio FR.
Radio FR. Radio Fribourg.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
J'ai entendu dire que en Suisse allait s'ouvrir une grande chaîne de fast-food américaine qui débarque. C'est
encore
Taco Bell.
Ah.
Taco Bell, il y en a plein des États-Unis. Je dois dire que je suis pas hyper fan. Enfin voilà, si vous aimez les tacos,
ça sera le bon plan.
Ce sera Taco Bell qui va s'installer en Suisse.
Il y a plein de gens qui adorent ça. Hein.
Ouais, bah alors si vous êtes fan de tacos, moi je vous conseillerais plutôt d'aller au Mexique parce qu'il y a un petit bar. Vraiment un truc qui paye pas de mine. Hein. Un bar à tacos à El Califa de León, à Mexico, dans ce petit quartier, qui a quand même réussi à se faire attribuer une étoile Michelin.
Pour un petit bar à tacos.
Et pour un petit bar à tacos, c'est une première quand même. Hein.
Ah, mais joli, ouais.
Donc t'imagines un peu, il n'y a que des places debout, hein. Faut pas espérer avoir.
Tu vas pas dans un gastro, quoi.
Non, non. Bah, si, en fait.
Non, mais je veux dire, quand tu vas en général dans un restaurant gastronomique, t'as de quoi t'asseoir.
Ouais, non, là, c'est une tente avec une queue, j'imagine.
Comme un food truck, quoi.
C'est encore pire depuis qu'il doit avoir l'étoile. Hein. Ça doit être horrible.
Ça veut dire qu'il cartonnait quand même déjà jusqu'à maintenant. Et maintenant qu'il a son étoile Michelin, ça doit être, tu fais quoi, 2 heures de queue, ouais.
Bah, je pense, ouais. En tout cas, j'ai déjà eu l'occasion de voir à Berlin un mec qui visiblement a une certaine réputation pour faire des kebabs aux légumes.
Aux légumes.
Et je peux te dire que je suis passé plusieurs fois devant et c'était une queue, je pense, bon, on va dire quoi, de 100 mètres. Nuit et jour.
Ah ouais,
tout le
vois,
temps.
Hein.
Et voilà. C'est un peu le problème maintenant avec Internet, avec les buzz,
réseaux.
Les réseaux.
Bien
c'est
sûr.
Que maintenant, dès que t'as un truc qui est un tout petit peu en dessus, bim, t'as la queue.
Les gens, ouais. Ah ouais. Les moutons.
Les moutons. Et puis après, t'as le resto d'à côté qui, à la limite, est presque d'aussi bonne qualité, mais il a pas fait son buzz et il y a personne dedans.
Non, mais alors, ça, c'est horrible.
Du coup, tu y vas et t'es heureux, quoi.
C'est comme côté. Mais tu vois, mais on est tous à la même chose quand t'es en vacances, puis tu passes devant 2 ou 3 restos, tu vas aller dans lequel?
Bah, évidemment.
Dans celui où il y a des gens.
Et voilà.
Et puis, une fois, moi, ça m'était arrivé, alors, je sais plus où c'était. Enfin, bref, on voulait aller dans un resto qui était dans le guide. Forcément, il était blanc. On était dans celui à côté qui était vide. Et ben, franchement, on a super bien mangé et le monde attire le monde parce que finalement, on s'est retrouvé avec une terrasse pleine. Bon, alors, je pense que les gens se sont retrouvés dans la même situation que nous. Ils voulaient tous aller à ce resto.
Ou alors que vous êtes les seuls Suisses allemands qui vont manger à 17h.
Ouais, peut-être. Comment ça, Suisse allemand, non?
Ben oui, parce que c'est en Suisse allemande qu'on va manger à 17h.
Ouais,
hein.
Ouais. Non, ouais. C'était une heure tout à fait convenable, mais voilà. Mais effectivement, il suffit d'un petit buzz. Et puis, ben là, lui, avec son étoile Michelin.
Ça m'est arrivé aussi en Italie, dans le nord d'Italie. Tu vas dans un resto à 20h30, t'es tout seul.
Et arrive 21h30, 22h, c'est plein, plein.
C'est ça, alors c'est qu'on n'a pas forcément le même horaire suivant où tu vas. Puis en vacances, en général, tu manges plus tard, tu te laisses aller, quoi.
Mais oui. En tout cas, si vous voulez aller tester des tacos de luxe, si vous êtes à Mexico, allez chez El Califa de León et faites la queue, comme tout le monde.
Ouais, puis on veut des photos.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Radio Fribourg, hein.
Radio FR.
Jamais sans.
Jérémy Croza.
Salut les Crozous.
Salut.
Tu vas bien, Mike?
Ça va super bien, et toi?
Oui, très bien. Alors aujourd'hui, c'est mercredi, et qui dit mercredi dit le journal de Jérémy. Alors place à l'info. Madame, monsieur, bonjour, nous sommes le 5 octobre 2022 et on souhaite une bonne fête aux Placides et aux Traséas. Dicton du jour à la Saint-Placide, la gelée est la première de l'année. Alors moi j'ai aussi un dicton, c'est que les dictons ça ne sert vraiment à rien, surtout quand on sait qu'il va faire 21 degrés demain. Apple va sortir un film avec Will Smith. Les premières personnes avant vu le film auraient déclaré « On a pris une claque qu'on n'attendait pas ». Le sélectionneur de la Nati Mouratiatine-Yakin a déclaré que son agenda était plein jusqu'à la Coupe du Monde. Ça va, après une semaine et demie de compétition mondiale, il sera certainement à la maison. Lors d'un discours, Joe Biden a fait une bourde en s'adressant à une parlementaire décédée. Alors c'est l'âge ou c'est du spiritisme? The Crown, la série qui retrace la vie d'Elisabeth II, a annoncé une nouvelle saison en approche et on a enfin une date de sortie. Ouais, mais ça n'a plus aucun intérêt, on s'est fait spoiler la fin.
C'est vrai, c'est vrai.
Haïti, près de 150 détenus se font la belle à cabaret. C'est fou, hein, tu changes deux mots à cette phrase et c'est plus du tout la même info.
C'est bon, j'ai compris.
Le footballeur suédois Zlatan Ibrahimovic a présenté la bande-annonce du prochain Astérix dans lequel il joue le rôle d'un soldat romain. Ibrahimovic aurait déclaré « C'est plutôt Astérix qui joue dans le prochain Zlatan ». En Belgique, un serveur ajoute par erreur 1000 euros à l'addition et le client ne se rend pas compte. Et après, on s'étonne qu'on fait des blagues sur les Belges. Après son procès très médiatisé, Amber Heard a changé de nom et a déménagé à Majorque pour être tranquille. Et bien, visiblement, c'est raté vu qu'on en parle dans les journaux. Selon une étude du Centre international d'études du sport, les athlètes nés durant le dernier trimestre ont statistiquement moins de chances de briller que ceux nés dans les trois premiers mois de l'année.
Tiens.
Bah ouais, je comprends pas, pourtant je suis né en février. L'Arabie Saoudite a été désignée mardi pour accueillir les Jeux Asiatiques d'hiver en 2029. Une mégalopole futuriste serait en construction dans le nord-ouest du royaume désertique. Et on vous le rappelle, il ne faut pas oublier de mettre le pet dans la poubelle à pet. Merci de m'avoir écouté, c'est la fin de ce journal et tout de suite une adaptation de L'Homme Invisible avec Ignacio Cassis dans le rôle principal. Bonne semaine et à mercredi prochain.
Bonne semaine Jérémy Croza, on te retrouve le 13 octobre à Bulle au bar L'Après, on s'en réjouit.
Radio FR.
Jamais sans.
Gilles Blaise des Talents Suisses tout de suite sur
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
C'est parti, c'est la super fête.
Car on va vous faire gagner ça.
Hey, yeah.
Ah ouais, ça en jette, hein, les années 60, hein, ça revient à la mode à fond la caisse. Hein.
Ouais, les années 60 d'aujourd'hui. Hein.
Bah oui, Umbrella, c'est donc Rihanna, hein, reprise de Rihanna, comme tout ce que font les baseballs, des reprises à la sauce 60s. Puis on va essayer de faire gagner quelqu'un. Qui, par exemple?
Sandra, hein, sauf erreur.
Sandra?
Effectivement.
Elle est rapide, Sandra.
Ouais.
On va essayer de voir si Sandra obtiendra son méga pass pour aller voir les baseballs. Alors, nous avons les footballs,
footballs
qui sont là in the studio.
In the studio.
Ça va, John?
Yeah, John. Hey. John. And you, Jack.
Ah, super, yeah, super, John. So,
yeah, I think
we're fan of the 60s.
Oh, never mind. Yeah.
I like your banana on your head.
Oh, thank you.
Oh, yeah.
And well, look at my roof lacquette.
Yeah, the roof lacquette.
Yeah.
And the JD.
Mm. Oh,
hey, JD.
Hi.
Yeah,
oh, you're nice barb.
Yeah, we're a super barb.
Super barb.
Where's the telephone?
Oui, allô?
Yeah, hello.
Oui, bonsoir.
Sandra.
Sandra.
Oui.
Oh, Sandra Charrière.
Yeah.
Charrière, you're coming from?
Yeah.
From
Restaurants on the Go. A Restaurants on the Go. It's beautiful.
It's a rock place, Mr.
Rock
North
party.
On the Go.
It's a party every day there. Yeah, Sandra. Sandra, you want to
winning.
Winning, right? Yeah, John.
Yeah.
Well, then, you metrize the English. And what is your favorite thing you want to gain? A super CD, a super rencontre, or a super concert?
A super concert.
Super concert! Yeah! Beautiful!
Merci.
Et donc, super concert, va falloir reconnaître une chanson des footballs.
Yeah.
Who was in the studio, the JD, the Jack, the John, and the super... And the
super guys.
Well, the first song you need to recognize, okay?
Oui.
You're ready, Sandra?
Oui.
Because the song is the groove is grooving.
Yeah, it's a very hot song.
Yeah. It's coming from 1963. Are you ready?
Oui.
Oh, damn girl, you're sexy bitch. Oh, sexy bitch. Oh, sexy bitch. Oh, damn girl, you're a sexy bitch. Damn girl, you're a sexy bitch. Yeah, I can see her, cause every girl in here wanna be her. Oh, she's a diva, feel the same, and I wanna meet her. She's slow down and I remember. I don't believe I'm the same. She needs to slow down the baddest thing around town. Oh, yeah, down is a sexy bitch. Down is a sexy bitch, a sexy bitch. Oh, girl, a sexy bitch, a sexy bitch. Sandra, you have recognized the chanson.
Non, je suis pas trop sûre là.
So, proposition.
Yeah,
proposition.
It's a reprise of a song very connu. Beginnings like this.
Ah, sexy bitch,
Yeah, you're very fort. You're very super.
Super fort.
It was the sexy bitch about the footballs.
Yeah.
Yeah.
Oh, yeah.
So, is it okay for the Sandra?
Yeah, it's okay for you. You win the place for the baseballs.
Yeah.
Merci beaucoup.
Radio FR. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
La bonne nouvelle du jour.
Bonne nouvelle pour les flemmardes, se laisser pousser les poils sous les aisselles, c'est la nouvelle tendance.
Mais oui, c'est toujours sympathique de se sentir dans une forêt vierge.
C'est la nouvelle tendance qui sévit sur Instagram et croyez-le ou non, mais les poils sous les aisselles ont la cote. Le changement, c'est maintenant. Et pour certaines femmes cultivées...
Une cote de combien précisément?
En termes de centimètres, vous dites.
Oui, bien sûr.
C'est très aléatoire. Il y a des fourniers courts, il y a des longs et fins. Voyez-vous, il y a toute une galerie photo. Hein.
Ah,
il y a même des teints en couleur.
Ah oui.
En rose fluo, précisément.
Plus bel effet.
Mm-hmm. Donc le changement, c'est maintenant pour certaines femmes. Cultiver les poils du corps est un moyen de protester contre les normes de beauté et d'entretien qui leur sont imposées par la société. Féministes, célébrités et autres femmes lambda s'affichent donc aujourd'hui sur Instagram en arborant fièrement leurs poils. Certaines allant même jusqu'à les colorer en fluo, de toutes les couleurs, l'arc-en-ciel, petit poney, tout ce que tu veux. Il faut savoir...
J'imagine bien une femme en petit poney. Ouais, ouais,
oui,
ouais.
L'arc-en-ciel.
Ouais, l'arc-en-ciel.
L'arc-en-ciel
ouais.
Sous les aisselles. Ça rime en plus. Bon, il faut savoir quand même qu'avant 1915 et l'arrivée des campagnes pub pour le rasage chez les femmes, même les femmes les plus pimpées arboraient fièrement leurs poils parce que c'était naturel finalement. Hein.
Ah.
Si on a des poils, que ce soit ici, sur les jambes ou bien au bikini, eh bien c'est normal. Et avant 1915, tout le monde avait des poils. Ouais. Et après ça, bing, arrivée des rasoirs, arrivée des robes sans manches, et là, catastrophe, disparition du duvet, disparition du poil, et arrivée des aisselles chauves. Bon, bah, il y a certains qui critiquent, il y a d'autres qui admirent. Je sais pas, toi, une petite. J'ai posté une photo hein, sur Facebook, alors, tu peux aller voir.
J'aime bien quand c'est au naturel, mais au niveau de l'aisselle, je dois bien avouer que si c'est propre et net, je préfère.
Ça va aussi.
Ça va aussi, ouais. Faut pas non plus pousser.
Toi, en contrepartie, tu t'en es à quoi? Ouais, propre et net.
Du poil, quoi.
Ouais.
Hein,
du poilounet, quoi.
Poilounet, duvet.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
22.
Radio FR.
Jamais sans.
Jonathan et ses célèbres enquêtes musicales. Comment ça va ce matin?
Ça va bien, toujours en forme.
Alors, je dois juste dire à mes auditeurs, je ne triche jamais parce que je ne demande jamais avant à Jonathan ce dont il va nous parler.
Oui,
comme
vrai.
Ça, je suis au moins aussi surpris qu'eux.
Et moi, j'aime bien faire la surprise comme ça. C'est toujours vraiment sympa. Avec le nez dans mes enquêtes, je suis retombé sur ce titre.
Cette année-là.
Ah.
Le
on en parlait déjà il y a quelques semaines. Hein.
Mais oui,
absolument.
Clo-Clo, l'année 62.
Exactement, un titre sorti en 1976, hein, mais qui parle de l'année 62, voilà. En effet, avec une petite erreur historique, on va lui pardonner. Hein, concernant Spoutnik, lancé 5 ans plus tôt, bref, n'importe quoi. Un titre qui a aussi été repris, Mike, je suis sûr que tu sais par qui.
Ah.
En 2000.
En 2000, qui c'est
enfin, il a pris le sample, surtout, avec
ah, oui,
cette
oui.
soirée-là,
oui, oui, oui.
Cette fois-ci.
Yannick,
pas cette année.
Yannick.
Exactement.
Mais oui, mais oui.
Pour la petite anecdote, Yannick avait entendu la chanson de Clo-Clo de Claude François.